Et je suis aujourd'hui avec Eric Mansuy, infirmier spécialisé en insuffisance cardiaque au CHICAS de Gap. Monsieur Mansuy, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous êtes aujourd'hui avec nous pour nous parler justement de l'insuffisance cardiaque, c'est votre spécialité. Peut-être qu'on peut commencer ensemble par voir qu'est-ce que ça veut dire exactement l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que c'est comme maladie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots ?
En fait, l'insuffisance cardiaque, c'est au-delà d'être une maladie, c'est surtout un syndrome qui est caractérisé par des symptômes, des signes qui sont en règle générale, ces signes sont l'essoufflement anormal, l'orthopnée, la difficulté de respirer quand on est en position allongée, c'est un signe d'aggravation, la prise de poids anormale également, on parle de quelques kilos en 48-72 heures, une prise d'œdème au niveau des membres inférieurs et puis une fatigue intense et inhabituelle. Et tous ces symptômes sont générés par des difficultés de contraction du muscle cardiaque qui génèrent un certain nombre de troubles vasculaires et cardio-respiratoires qui génèrent ces symptômes. Alors, c'est une pathologie qui est grave et qui est fréquente. Fréquente, elle touche 2,3% de la population. Et la prévalence de cette maladie augmente de plus de 50% tous les 10 ans. On sait que 15% des plus de 75 ans sont touchés par cette maladie. C'est la première cause d'hospitalisation adulte en France. C'est une maladie grave parce que 80% des patients touchés par l'insuffisance cardiaque décèdent chaque année. Et c'est une maladie avec laquelle on a du mal à vivre normalement, du fait des symptômes que je vous ai énumérés et des poussées successives de cette maladie.
Les symptômes justement que vous nous avez décrits et énumérés sont des symptômes qui sont quotidiens ou est-ce que ça peut être un peu plus ponctuel ?
Alors ça dépend des patients, il y a des patients qui quotidiennement, c'est une maladie chronique, l'insuffisance cardiaque, donc il y a des patients qui sont touchés globalement de façon quotidienne par ces symptômes, plus ou moins aggravés selon les conditions de vie de la personne, c'est-à-dire que la personne peut être essoufflée au moindre effort ou sur un effort inhabituel, et puis il y a des patients qui peuvent être essoufflés au moindre effort et au repos, et donc effectivement, une personne qui reste au repos et qui n'a pas une activité physique très importante peut ne pas ressentir les signes de la maladie à certains moments et puis lors d'efforts inhabituels, l'essoufflement peut se rappeler à elle et effectivement c'est exactement les signes de la maladie. Les œdèmes c'est pareil, à un moment donné on va bien puis on s'aperçoit qu'on a les jambes qui gonflent un peu, on n'arrive plus à chausser ses chaussures dans la journée et effectivement ça signe la présence d'une rétention hydrosodée qui se manifeste par des œdèmes des membres inférieurs et voilà.
La rétention hydrosodée, pour être certaine de comprendre, c'est une rétention d'eau finalement ?
Oui, c'est ça. C'est effectivement des processus vasculaires qui font qu'à un moment donné, le système vasculaire se décharge de trop de liquide dans les vaisseaux et va par gravité principalement dans les jambes, dans les chevilles au départ. Puis ça peut remonter vers les mollets et au-dessus des genoux. Et quelqu'un qui est allongé, ça sera plutôt dans les lombes par exemple.
Et cette rétention-là, cette rétention hydrosodée, elle est due à des facteurs en particulier ?
Oui, elle est liée en fait qu'à un moment donné, le cœur ayant du mal à se contracter, et donc à évacuer et à faire circuler le sang. Du coup, effectivement, pour faire simple et ne pas compliquer les choses, il y a des problèmes de pression vasculaire qui s'opèrent, qui font qu'à un moment donné, les reins retiennent de l'eau dans l'organisme, qui vont de nouveau compliquer, c'est un processus un peu sans fin, qui va compliquer l'activité cardiaque et qui va accélérer la décompensation de cette insuffisance cardiaque. Il faut absolument stopper ce mécanisme par des traitements. Alors, il y a plusieurs traitements, mais le traitement des décompensations, c'est l'usage des diurétiques, donc des traitements qui font éliminer par les urines, qui agissent sur le rein et sur le cœur, et qui font éliminer par les urines cet excédent hydrosodé.
Alors, avant d'entrer dans le détail des décompensations que vous venez d'évoquer, peut-être est-ce qu'on peut parler des causes de l'insuffisance cardiaque ? Est-ce qu'il y a des causes connues ? Quelles sont-elles ?
Effectivement, l'étiologie, les causes de l'insuffisance cardiaque, ce sont souvent les séquelles d'infarctus du myocarde. Dans 70% des cas, les gens sont en insuffisance cardiaque parce qu'ils ont fait par le passé un infarctus du myocarde qui a généré des nécroses du muscle cardiaque et qui fait qu'à un moment donné, on peut comprendre que la partie du muscle cardiaque qui est nécrosée, donc qui est mort, ne se contracte pas correctement et ne permet pas au cœur d'avoir une activité normale. Et ça, voilà, le mécanisme que je soulignais tout à l'heure est altéré. L'hypertension, c'est aussi une des causes fréquentes de l'insuffisance cardiaque. On peut également comprendre qu'en aval du cœur, quand les pressions sont trop importantes, le cœur est obligé de forcer pour évacuer le sang des cavités. Et du coup, le cœur est un muscle, et ça veut dire que le muscle s'épaissit. Et plus le muscle est épaissi, plus la contraction est difficile à opérer. Après, il y a d'autres troubles qui peuvent favoriser cette insuffisance cardiaque, notamment des problèmes structurels, des valvulopathies, c'est-à-dire des troubles des valves cardiaques qui font que, pour les mêmes raisons, le sang circule mal dans les cavités et génère ces signes et symptômes. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas dans les causes de l'insuffisance cardiaque, c'est aussi les difficultés d'observance des patients. Quand on est insuffisant cardiaque, on est soumis à un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques, même si j'aime pas trop ce terme-là, mais ça veut dire qu'on doit contrôler sa consommation en sel, par exemple, puisqu'on a compris qu'il y avait des problèmes de rétention hydrosodée dans l'organisme avec l'insuffisance cardiaque. Or, le sel dans l'organisme favorise la rétention d'eau, donc il est contre-productif par rapport aux objectifs des traitements de l'insuffisance cardiaque. Voilà, il complique la maladie et les patients doivent consommer le moins de sel possible, même s'il n'est pas interdit, doivent limiter leur consommation de liquide. Ça peut être compliqué pour des patients qui ont d'autres pathologies comme le diabète, par exemple, ou des fois, un des signes de décompensation du diabète, c'est une hydratation plus importante. Ben, un patient qui est insuffisant cardiaque et diabétique, ça peut être assez compliqué à gérer. Dans les difficultés d'observance, je veux dire aussi observance au traitement. Un patient qui est traité pour l'insuffisance cardiaque, il faut absolument qu'il soit observant de ses traitements. S'il ne prend pas ces traitements, c'est un des facteurs aggravants de décompensation. Et si possible, le patient insuffisant cardiaque, comme nous tous, doit faire en sorte d'avoir une activité physique la plus régulière possible. Alors, on ne parle pas de sport, on parle d'activité physique, mais elle est importante pour l'équilibre en santé et l'équilibre du corps, quoi.
Donc, si je comprends bien, pour les meilleures manières de prévenir ces décompensations qui sont liées à l'insuffisance cardiaque, ce serait donc, vous venez d'en parler, l'activité physique, une consommation en sel régulée, en quelque sorte.
C'est ça.
Et puis, bien prendre les médicaments.
Je dirais même avant tout une bonne observance de ces traitements médicamenteux, déjà dans un premier temps, le régime contrôlé en sel en deuxième et l'activité physique en troisième. Mais effectivement, c'est les trois paramètres qui sont très importants à observer.
Donc c'est les trois paramètres les plus importants. Et je reviens juste sur ce point, puisqu'on a enchaîné sur justement les paramètres à observer. Le fonctionnement de l'insuffisance cardiaque, vous évoquiez les dysfonctionnements du cœur. Et vous aviez parlé des problèmes de valves. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu plus simplement ce que ça veut dire que quand il y a des valvulopathies?
Des valvulopathies, ça veut dire des problèmes de valves, des valves qui ne fonctionnent pas bien. Un cœur, globalement, a quatre cavités avec des oreillettes et des ventricules. Il y a les valvulopathies, puis les troubles du rythme cardiaque. On peut comprendre que si mécaniquement le cœur ne fonctionne pas bien, les liquides biologiques ne vont pas circuler normalement. Et notamment dans les problèmes de valves, c'est que le sang qui doit descendre des oreillettes vers les ventricules, si les valves fonctionnent pas bien, tout le sang ne va pas descendre correctement des oreillettes vers les ventricules. Et il peut y avoir des reflux qui partent du ventricule vers les oreillettes qui va générer des phénomènes d'engorgement et de complications qui sont anormales et qui ne permettent pas au cœur de se contracter correctement et d'évacuer dans l'organisme et la circulation générale le sang correctement, quoi.
Donc ça nous permet de bien comprendre tout ce qui se passe justement quand il y a de l'insuffisance cardiaque. Et j'y reviens justement sur les décompensations et les manières de prévenir des décompensations. On vient d'évoquer trois points clés. Et justement, c'était l'objet d'une formation mercredi 28 janvier auprès d'auxiliaires de vie. Parlez-nous justement de l'importance de cette formation et de pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place au CHICAS de Gap.
En fait, on a travaillé au CHICAS en 2024 et en 2025 dans le cadre d'une démarche qu'on appelle la démarche de responsabilité populationnelle, démarche qui était animée par le service d'information médicale de l'hôpital de Gap et qui comprenait tous les acteurs de santé de la ville et de l'hôpital qui sont concernés par la prise en charge de cette maladie et tous les acteurs de santé. Ils étaient à la fois des acteurs médicaux, paramédicaux, mais aussi les organismes comme la sécurité sociale, les organismes de santé, les mutuelles, le DAC, le dispositif d'appui à la coordination des soins. Et puis on s'est aperçu que en analysant le parcours du patient, insuffisant cardiaque, c'est une bonne façon de replacer les choses. On remet le patient au centre de nos raisonnements et de nos réflexions sur la prise en charge de sa pathologie. On s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'acteurs de santé ou d'acteurs du soin qu'on n'associait pas suffisamment et qu'on n'avait pas identifié qu'on n'associait pas suffisamment. Et ces acteurs de soins, ce sont les auxiliaires de vie, les aidants professionnels. Parce que les personnes qui sont touchées par l'insuffisance cardiaque, qui sont plutôt des personnes âgées, les auxiliaires de vie sont au cœur de l'accompagnement de ces personnes. Elles leur font les courses, elles leur font à manger, elles les voient plusieurs fois par jour. Elles sont souvent des personnes auxquelles on se confie facilement. Il n'est pas normal de ne pas s'appuyer sur ces accompagnants pour améliorer la prise en charge de ces personnes, quoi. L'auxiliaire de vie sera souvent la première personne qui arrive au chevet du bénéficiaire ou du patient le matin et qui pourra constater qu'à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas, notamment dans l'insuffisance cardiaque. Parmi les premières choses qu'on peut constater quand un patient décompense son insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quand il aggrave ses signes et ses symptômes, et bien un patient qui a passé la nuit, par exemple, dans son fauteuil plutôt que dans son lit, il y a probablement des difficultés à respirer pour le patient en position allongée et que le patient n'a pas trouvé d'autre solution que de se mettre sur un fauteuil et dormir sur le fauteuil pour passer une nuit à peu près tranquille, quoi. Donc ça, c'est des signes qui doivent alerter. Et pour comprendre ça, il faut éduquer les auxiliaires de vie et les aidants aux signes et symptômes de l'insuffisance cardiaque, ce que nous faisons depuis 2 ans déjà en nous appuyant sur les communautés professionnelles territoriales de santé avec lesquelles on organise ces formations-là. Et là, il se trouve qu'on a organisé une formation pour donc éduquer aux signes et symptômes de l'insuffisance cardiaque, comprendre la conduite à tenir en présence de ces signes et symptômes, et puis aussi comprendre qu'à un moment donné, à travers leur expérience et leur vécu, les aidants professionnels sont au cœur de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une alimentation dosée en sel, les auxiliaires de vie, les aidants professionnels font les courses de ces patients, ils leur font à manger, ils sont au cœur de tout ce qui nous préoccupe en termes de prévention secondaire de cette maladie, quoi.
Cette prévention secondaire, elle est particulièrement importante puisque ça peut aussi permettre d'enrayer certains signes avant-coureurs avant qu'il y ait besoin d'une hospitalisation.
Oui, c'est-à-dire que les auxiliaires de vie, les aidants professionnels ne peuvent pas inventer les signes, ils les connaissent. Ils les connaissent. Quand on leur présente les signes de l'insuffisance cardiaque, on constate qu'un bon nombre d'entre eux ont été en présence d'œdèmes des membres inférieurs sans ne savoir quoi trop en faire. Et donc, ne les comprenant pas, ils ne les signalent pas, ils ne les pointent pas, ils ne transmettent pas. Et il était très important de les aider à pointer ça. La prise de poids, qui est très importante, on en a déjà un petit peu parlé dans l'insuffisance cardiaque, parce qu'elle signe une rétention hydrosodée qui font que le poids va augmenter très vite, pas quelques centaines de grammes par 24 ou 48 heures, mais quelques kilos en 24, 48, 72 heures, ça peut aller jusqu'à 4, 5, 6 kilos en quelques jours. Et ça se concrétise par une prise de poids, forcément, parce que cette eau et ces liquides biologiques ne devraient pas être restés dans l'organisme. Et ne serait-ce que de savoir qu'il est important dans la surveillance quotidienne d'un patient sans cardiaque, il est important de le peser, c'est des choses qui peuvent faire aisément et pointer le fait qu'à un moment donné, une prise de poids rapide et anormale, c'est un signe de décompensation. Voilà. Et puis aussi, en comprenant à un moment donné les plaintes spontanées que peuvent émettre les patients, il est possible de déceler des signes anormaux qui sont des signes d'alerte qu'il faut prendre en compte, quoi.
Et le fait de déceler tous ces signaux-là en amont, est-ce que ça peut avoir un impact positif, le fait de prendre ces problématiques-là en amont ?
Mais oui, bien sûr, on est dans des logiques de prévention secondaire. Donc la prévention secondaire, on a affaire à des gens malades dont on connaît la pathologie et on connaît les signes de décompensation et on essaie de les éviter. Bien sûr, c'est le but. Il faut savoir que dans nos services de cardiologie, Chicas, 50% des patients qui sont hospitalisés pour une poussée d'insuffisance cardiaque, pour 50% de ces patients, on retrouve en facteur déclenchant de cette décompensation, il y a des gens qui, pour plein de raisons, ne prenaient plus leurs médicaments ou une inobservance au régime dosé en sel, tout simplement parce que certains d'entre eux n'ont pas compris l'importance de consommer moins de sel ou ont des difficultés à adapter leurs habitudes de vie, et c'est pas facile, on peut le comprendre. Et tout ça, ce serait des hospitalisations évitées si on avait pu intervenir d'un point de vue éducatif auprès directement des patients, de leurs familles ou de leurs aidants professionnels. C'est bien le but de ces formations que nous organisons à leur intention.
Et puis peut-être une dernière chose pour les personnes justement qui n'ont pas de professionnels pour les accompagner. Vous venez d'évoquer les familles. Est-ce qu'il y a des outils qui sont mis à disposition des familles pour aider leurs proches qui sont insuffisants cardiaques?
Alors il se trouve que dans les Hautes-Alpes, depuis 2021, en fait, nous gérons au CHICAS un dispositif de télésurveillance. Nous animons un dispositif de télésurveillance de l'insuffisance cardiaque qui fait que nous équipons les patients diagnostiqués insuffisants cardiaques de balances qui sont connectées à l'hôpital et sur lesquelles les patients se pèsent tous les jours. Et effectivement, vous avez compris à travers les signes que j'exposais de l'insuffisance cardiaque que le poids est un paramètre très important à surveiller. Et effectivement, dans ce dispositif de télésurveillance, nous accompagnons à la fois les patients au quotidien, mais on accompagne également les aidants personnels de ces patients, qui peuvent être les conjoints des patients, qui peuvent être les enfants. Et tout ce travail que nous conduisons avec les aidants professionnels, nous le conduisons aussi avec les familles et les aidants personnels, donc au quotidien, sur comment accompagner mon conjoint ou mon parent qui est insuffisant cardiaque et quelles sont les choses également à surveiller, quoi.
Tout ça, ce sont des outils qui sont à disposition des aidants professionnels et personnels pour éviter des hospitalisations qui seraient évitables, justement. 50% d'entre elles seraient évitables. Éric Mansur, on a fait un beau tour sur ce que c'est que l'insuffisance cardiaque et les manières de prévenir des hospitalisations, des suites de décompensation. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose à l'intention de nos auditrices et auditeurs?
Oui, un dernier mot qui est très très important aussi, c'est que en termes de prévention, et vous savez que limiter et traiter les facteurs de risque cardiovasculaire sont une dimension qui est très importante pour éviter à un moment donné l'insuffisance cardiaque. Je pense au tabac en particulier, qui est très pourvoyeur de maladies cardiovasculaires, notamment d'infarctus du myocarde. Donc limiter les facteurs de risque, le tabac, l'alcool, l'hypertension, ça va également avec, le diabète, l'hypercholestérolémie, tout ça, ce sont des préventions qu'il faut cibler en direction de tout un chacun pour éviter la survenue de pathologies cardiovasculaires, en particulier l'insuffisance cardiaque.
Ça, ce sont des choses que tout le monde peut observer et justement auxquelles on peut tous et toutes faire attention. Éric Mansu, merci beaucoup d'être venu dans nos studios.
Merci à vous.